Samedi 25 août 2018, il est 18h. Tout de suite, le journal du studio Kalangou à la présentation Michel Dégé. Les titres de ce journal, bientôt la rentrée des élèves et étudiants. Certains élèves exclus de l'école publique se retrouveront dans des écoles privées où les frais de scolarité restent exorbitants. L'association des parents d'élèves interpelle l'État sur la question. Moins de tracasseries à la frontière nigéro-béninoise, même si tout n'est pas réglé à Malanville depuis la mise en service des postes de contrôle juxtaposés entre le Bénin et le Niger. Les usagers réagissent dans ce journal. En partie magazine, Rayla Toussoumana nous amène au musée national Bouboumama pour parler du commerce de l'art nigérien où des revendeurs ambulants sont mal vus par certains concurrents. Bonsoir et bienvenue à Niamey. La direction des petites et moyennes entreprises continue à réclamer l'impôt auprès des médias privés de la capitale. Cette semaine, c'est l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui a été sommé de passer à la caisse. L'hebdo La Griffe est encore fermé depuis 5 semaines pour non-paiement d'impôts, ainsi que la radio et télévision La Bari depuis 4 semaines. Le groupe de radio et télévision Niger 24 a pu reprendre ses programmes lundi après un mois de silence. Au Mali voisin, plus de 5000 partisans de l'opposant malien Soumaïla Cissé, officiellement battu à la présidentielle par le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, ont marché ce samedi à Bamako pour contester les résultats de ce scrutin, ont annoncé les organisateurs. Non aux résultats proclamés ou IBK ne vole pas notre victoire, pouvait-on lire sur des pancartes lors de cette marche dans le centre de Bamako, sur une dizaine de kilomètres, rapporte une dépêche de l'AFP de ce jour. Les manifestants ont été encadrés sans incident par les forces de l'ordre. Des marches ont également été organisées en province et à l'étranger selon le camp de Cissé. Nous voulons un pays en paix, tranquille, stable, mais pas un pays où le président est élu par la fraude, le bourrage des urnes et la falsification des résultats, a déclaré Soumaïla Cissé lors de la marche d'abord interdite puis autorisée, précise la dépêche. Plus de 4 ans après leur création, les postes de contrôle juxtaposés de Malanville ont été mis en service le 12 juillet 2018 à Malanville au Bénin. Comment les usagers apprécient-ils cette initiative de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Les réponses dans cet élément de notre correspondant à Gaya, Daouda Hassan.
Avant vraiment, il y avait beaucoup d'embouteillages. Aujourd'hui, avec les postes juxtaposés, il n'y en a pas tellement. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul agent de police qui fait l'enregistrement. Ce qui fait que le travail est lent. Par rapport au coût, ça va maintenant. Puisque c'est seulement au niveau du poste juxtaposé que tu payes. Et tu sais à qui tu donnes l'argent. Avant, il y avait beaucoup de postes. De telle sorte que tu ne sais même pas à qui tu donnes l'argent. Tu ne sais même pas si c'est son travail ou pas.
Vaccination.
Le seul problème, à mon avis, c'est au niveau du carnet de vaccination. Si un passager ne l'a pas, on te demande de payer 500 francs. Mais imaginez les conséquences une fois que les malades traversent la frontière. À mon avis, il faut trouver une solution à ça.
Propos des usagers recueillis par notre correspondant à Gaya, Daouda Hassana. Le prix sur le marché des peaux d'animaux n'est pas du tout bon à Maradi. La disponibilité de la peau au lendemain de la fête de Tabaski ne l'explique pas. La saison des pluies et la morosité économique dopée par la rareté de gros clients étrangers sont des facteurs à prendre en compte. Détail avec Mohamed Maman.
À Maradi, malgré l'existence d'une coopérative de commercialisation de peaux et d'une usine de collecte et de traitement des cuirs et peaux, la commercialisation de ce produit connaît des difficultés, particulièrement au sortir de la fête de Tabaski. Pour El Hadji Ibrahim, secrétaire général de la coopérative de cuirs et peaux Tatel Niarziki, pont de bousculade pour s'en procurer.
Cette année, les prix de la peau des animaux a beaucoup baissé. Quand la fête se fait dans le mois d'août, les acheteurs sont un peu réticents et en plus, il y a la situation économique qui est un peu délétère. La peau d'un mouton s'achète à 750 francs, celle d'une chèvre à 400 voire 500 et pour les bœufs, c'est dans les 4000, 4500 voire même 5000 francs. Une autre raison que les acheteurs nous avancent, c'est que dans le mois d'août, les animaux font face à des maladies de la peau et ensuite, les usines de traitement avec lesquelles nous collaborons n'achètent pas du tout.
L'usine de maladie est aussi indexée dans cette mévente. Pour Boukari Abalassan, le chef d'exploitation de la sahélienne de cuir de peau, l'usine ne s'y intéresse pas pour des raisons stratégiques.
Il s'est trouvé que nous sortons vraiment d'un programme qu'on vient juste de finir. Donc un programme avec l'Inde, une commande. Donc nous sommes juste à la fin de cette commande. Donc la fête est là, donc on n'a pas eu à renouveler donc, de commande. C'est pourquoi nous n'avons pas acheté. Il faut savoir que l'usine ne produit que sur commande seulement.
Il faut aussi noter que si le prix d'achat des peaux a connu une baisse notoire, cela s'explique par la faible demande internationale.
Cette période de l'hivernage rime avec les conflits intercommunautaires, notamment entre éleveurs et agriculteurs ou entre agriculteurs. Dans le département de Dogondouchi, suite aux différentes séances de sensibilisation entreprises par les autorités administratives et coutumières, l'on constate un certain calme. Hamidou Dioga, préfet du département de Dogondouchi, au micro de Abdelaziz Dayouma.
S'agissant de la cohabitation agriculteur-éleveur au cours de cette période d'hivernage-là, je peux dire vraiment Dieu merci. Au niveau du département de Dogondouchi, le travail de sensibilisation que nous avons eu à mener, et nous en tant qu'autorité administrative et les autorités coutumières, en tout cas ce travail dit de sensibilisation-là a porté ses fruits, ce qui fait qu'à ce jour nous n'avons enregistré aucun problème. En tout cas, aucun litige lié en tout cas à la cohabitation pacifique. Tout est calme sur l'ensemble du département et nous espérons que cela ira de l'avant. L'appel à lancer, c'est qu'on puisse aller de l'avant dans cet esprit-là d'autodéveloppement. Et l'esprit de cohabitation pacifique qui prévaut dans le département doit être également maintenu. Vraiment, je crois que cet appel sera entendu.
206 maisons réhabilitées dans la région de Tillabéri au profit des réfugiés maliens ainsi qu'à des autochtones remises à Ayero la semaine dernière. C'est une œuvre de plan international en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Précision avec Mamoudou Saka, secrétaire général de la préfecture d'Ayero et président du comité ad hoc chargé de la distribution des maisons au micro de notre correspondant local, Abdoulaye Mamoudou.
HCR, en collaboration avec Plan International, ils ont eu effectivement à remettre les 206 maisons aux bénéficiaires, ça veut dire les réfugiés, et il y a un certain pourcentage attribué effectivement aux autochtones. Dans les 206 maisons réhabilitées, il y a 36 qui doivent appartenir aux autochtones et il y aura 170 qui devraient revenir aux réfugiés. Et c'est ça qu'on a procédé effectivement à la remise officielle de ces maisons et que maintenant chaque propriétaire connaît effectivement sa maison. En plus de ça, on a donné aussi du ciment, des fers, de l'argent pour que tout un chacun puisse faire sa latrine. C'est des maisons effectivement en semi-dur, ça a été fait en banco et on a eu à crépir ça, crépissage interne et externe en ciment.
Propos recueillis par Abdoulaye Amodou. Après l'évaluation des élèves au titre de l'année scolaire écoulée, les parents dont les enfants ont été renvoyés des écoles publiques pour insuffisance de travail se retrouvent dans l'obligation de les inscrire dans les écoles privées où les frais sont onéreux. Pour le président régional Niamey de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants, il est de la responsabilité de l'État d'avoir un regard sur ces tarifications. Écoutons Abdoulaye Adamou.
Il y a des écoles d'un million à Niamey. Il y a des écoles de 600 000 à Niamey. 200 000 francs à Niamey. 300 000, 150 000, pas moins. Est-ce qu'un pauvre parent avec deux enfants renvoyés dans sa famille, il peut réinscrire un enfant à 300 000? Dans l'arrêté de création, il y a une autonomie des frais d'inscription. C'est cela qui fait que ces gens-là n'ont aucune tolérance. Tolérance zéro par rapport aux pauvres Nigériens aujourd'hui. Et c'est grave. Donc le président de la République, c'est lui qui a donné l'aval comme quoi l'enfant sera inscrit à l'école de 6 ans à 16 ans. Et aujourd'hui, en grande masse, nos enfants sont renvoyés avant 16 ans. Parce que tous ceux qui sont là en train de prendre l'alcool, les dissolutions et autres là, c'est des enfants renvoyés des écoles. Ils ne peuvent ni aller à l'école, ni aller à la culture, ni à autre chose. Et les parents ne peuvent plus les supporter parce qu'ils ne cherchent qu'à les nourrir. Et c'est là, c'est aux fondateurs d'être tolérants. On a eu cette situation l'année dernière. La même question a été posée. Et on a entendu certains d'entre eux qui disent qu'ils sont libres parce que les impôts. Mais c'est là où l'État aussi doit être tolérant, de faire diminuer leurs impôts aussi, pour qu'eux aussi diminuent les inscriptions.
L'utilisation des téléphones Android entraîne moins de fréquentation des cybercafés, jadis des lieux indispensables pour naviguer dans la ville de Niamey. La majeure partie des revenus des gérants ne provient plus des frais de navigation des clients, mais plutôt d'autres activités connexes, comme nous l'explique Nuhu Idrissa. Il est gérant de cyber au quartier Yantala, deuxième forage.
Les gens se connectent à la maison, soit sur leur téléphone ou sur leur PC. Ça a vraiment un impact, un grand impact même. Donc, c'est juste quelques impressions qu'on arrive à voir avec les gens ou s'ils veulent des copies. En général, sinon, ce n'est pas rentable. C'est comme les télécentres, je peux dire que c'est la même chose. Hein. C'est juste, on est là, des fois, c'est un endroit ou bien un bureau. Si on te cherche, on peut te retrouver.
Vous recevez combien de clients en moyenne par jour?
Ça ne dépasse pas 5 à 6, hein, si je peux le dire, des fois. Ça fait que s'empirer. Donc cela implique qu'on ne voit pas d'avenir quoi, pour le cyber. Si les gens veulent, hein, pour les formations, ils peuvent se présenter au niveau des cyber. On peut les former sur tous les domaines d'informatique. C'est ce que j'ai à leur conseiller parce que maintenant le monde évolue. Tout est informatisé, donc il faut essayer de venir se former quoi, à l'informatique.
Parti Magazine, à présent, le musée national Boubouhama, en plus des pavillons et du parc zoologique, abrite des stands d'artisans où sont fabriqués des souvenirs pour les visiteurs et autres touristes. Des ambulants aussi proposent leurs produits aux hôtes du musée. Une concurrence mal vue par les artisans fixes, nous a confié Moussa Ibrahim, artisan ambulant. Reportage signé Raïla Toussoumana.
La soixantaine bracelet en main, Moussa Ibrahim approche délicatement les hôtes aux abords des enclos et des cages des animaux. Moussa est un artisan guide de la coopérative artisanale du musée national Boubouhama qui, par manque d'emplacement, exerce le métier de marchand ambulant. Il déplore le fait que les artisans, notamment ceux ambulants, arrivent difficilement à vendre leurs produits artisanaux. Selon Moussa, certains visiteurs locaux n'ont pas de quoi s'offrir ce genre d'articles et d'autres y portent peu d'intérêt. Cependant, avec les touristes étrangers, il arrive à tirer son épingle du jeu. Ce commerce déplaît aux autres artisans qui sont sur place, mais selon Moussa, c'est la seule voie qu'il a trouvée pour exercer son commerce, bien que cela s'avère aussi dérangeant pour les visiteurs. Pour mettre fin à ce genre de commerce, Moussa Ibrahim lance un appel à l'État nigérien pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de s'investir plus pour les artisans du Niger en général et ceux du musée Boubouhama en particulier.
Je connais la valeur d'artisanat. L'État ne se rend pas si je suis dit. et je fais les tableaux avec un étranger. Tu vois, si j'étais là-bas, s'il y a un risque, il y a un risque de perdre. Parce que le fait de guider quelqu'un pour même expliquer, tu vois, c'est quelque chose. Nous sommes des gens qui veulent aider notre pays.
Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.